C'est là que nos vies changent. Amen. Amen. Hallelujah. Vous aimez la routine? Est-ce que quelqu'un ici aime la routine? Parce que Dieu ne nous a pas créés pour la routine. Amen. Quelqu'un dit Hallelujah. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Il veut que chaque jour soit un jour de joie, un jour de victoire, que nous soyons forts et que nous faisons des exploits. Amen. Donc, j'ai déjà fait 4 messages sur la force de la joie. Ça va être le dernier sur ce titre, mais on va regarder la joie tout autour de cette année parce que c'est vraiment le thème que Dieu nous a donné. Amen. Oui. Dis avec moi, la joie du Seigneur est ma force. Dis encore, la joie du Seigneur est ma force. La force n'est pas une option. Amen. C'est comme acheter une voiture, il n'y a pas de moteur. Vous avez une magnifique carrosserie, les pneus sont magnifiques, les vitres même teintées, oui, électriques, c'est super, sauf qu'il manque le moteur. Amen. La joie est comme un moteur pour nous. C'est la force qu'il nous faut pour réussir. Amen. Hallelujah. Avez-vous votre Bible avec vous? Ou votre tablette sur laquelle vous lisez votre Bible? C'est bien. Dis ceci avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce que la parole de Dieu déclare à mon sujet. Je possède tout ce qu'elle affirme et je suis capable de faire tout ce qu'elle me promet. Je plonge mes regards dans la parole de Dieu et je persévère, n'étant pas un auditeur oublieur, mais me mettant à l'œuvre et je suis heureux dans mon activité. Ce que je crois dans mon cœur et que je déclare de ma bouche se manifeste dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Notre thème pour cette année, c'est servir le Seigneur avec joie. Ouais, et le premier point que Dieu m'a donné pour cette thème, c'est se réjouir dans le Saint-Esprit. Ouais. Servir comme Jésus et grandir en Dieu. Amen. Donc, nous sommes en train de voir d'abord, et cette première chose, c'est de se réjouir dans le Saint-Esprit. Je veux vous exhorter cette année de lire et relire l'épître des Philippiens. C'est l'épître de joie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà lu l'épître des Philippiens? Oui? Quand je ne sais pas quoi lire, si je veux lire encore, parce que j'ai une habitude, une tradition de lire des psaumes, des proverbes, l'évangile et des épîtres, mais souvent je dis, je veux lire encore autre chose, vous savez, je tourne là. Je pense que je suis tourné en Philippiens plus que n'importe quel autre épître de la Bible. Amen. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais je veux vous lancer ces défis de le lire. Oui, il y a 4 petits chapitres, mais pas de lire une fois. Oui, prends plusieurs semaines, commence avec chapitre 1, le lendemain, lis chapitre 2, le chapitre 3, le 4, et après reprends. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est votre force. Et ça va communiquer la joie envers vous. On va lire quelques versets. Oui, on commence en Philippiens. Chapitre 1, c'est pour vous donner un petit peu l'avant-goût. Amen. Ne fais pas l'erreur que j'ai entendu quelqu'un me dire un jour, il dit « j'ai lu la Bible ». Je dis oui, mais c'est très bien, mais la Bible n'est pas un livre à lire, c'est un livre à lire et relire et encore et digérer et mettre en pratique. Si vous êtes heureux dans vos activités, il faut la mettre en pratique, donc il faut le savoir, il faut le connaître, mais la connaissance gonfle. Amen. Nous ne voulons pas les gens qui savent, nous voulons les gens qui font. Amen. Parce que faire va faire toute la différence. Savoir, ça ne suffit pas, les amis. Oui. On a des grands intellectuels, des grosses têtes, oui. Des gens qui ont toutes sortes de lettres devant, après leur nom, ils ont des doctrins en ceci, en cela, et ils n'arrivent pas à vivre. Nous voulons vivre. Oui, nous travaillons dans cette église à grandir le cœur. Amen. Avoir des grands cœurs envers Dieu, mais des grands cœurs envers les autres aussi. Amen. Philippiens, c'est un épître extraordinaire. On commence tout au début de chapitre 1. Hallelujah. Et il dit... Verset 3, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. » Paul parle de sa joie. Amen. Si nous continuons, oui, verset 12 à 19, il parle du fait qu'il y a des gens, il est en prison en lien et les gens prêchent l'Évangile pour lui faire du tort. Que c'est dommage. Mais écoute ce qu'il dit dans le verset 18. Il dit, qu'importe. C'est ce que Paul dit. Il dit, qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est point n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Les gens sont en train de prêcher Christ pour lui faire du mal et disent qu'importe. Amen. Les gens vont vous faire du mal, qu'importe. Oui, on va se réjouir. Amen. Et il se réjouit que Christ n'est pas moins prêché. Chapitre 2, versets 1 à 3. On est toujours en Philippiens. Écoutez ceci. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union dans l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Nous vivons dans un monde qui croit que certaines nationalités sont supérieures à d'autres, que certaines cultures sont meilleures que d'autres, que certaines personnes sont meilleures que d'autres. Et vous savez ce que la Bible dit? Il n'y a ni homme ni femme en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes égaux, peut-être dans aucune autre place, mais aux yeux de Dieu, oui, vous êtes, oui, la plus haute qualité de personne qui existe, oui, son enfant. Alléluia. Ça devait nous faire réjouir. Donc il dit, regardez par humilité, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même parce qu'ils ne sont pas. Hello? Il n'y a pas un état plus élevé que d'être enfant de Dieu. Êtes-vous enfant de Dieu? C'est seulement en acceptant Jésus-Christ que nous devenons enfants de Dieu. Ce n'est pas par nos propres œuvres, mais par sa grâce. Amen. Mais par l'humilité, nous regardons, nous traitons les gens comme s'ils sont au-dessus de nous. Et pour y rendre ma joie parfaite. Chapitre 3. On va revenir sur ces choses dans les mois à venir, je suis sûr. Mais je voulais vous voir, que vous voyez ça. C'est un épître rempli de joie. Premier verset de chapitre 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est le plus grand problème pour les chrétiens. Ils veulent se réjouir dans leurs circonstances. Il se peut que vos circonstances sont les pires que vous avez jamais rencontrées. C'est pourquoi il dit ne vous réjouissez pas dans vos circonstances. Il dit réjouissez-vous dans le Seigneur, et je dis, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Amen. Pourquoi? Et pour vous, cela est salutaire. Paul, excuse-moi, il rabâche les mêmes choses. Il répète les mêmes choses. Vous pouvez lire ses autres épîtres, mais ici, dans cet épître, il rabâche, réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Cela vous est salutaire. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est ma force. Votre force, notre force. Amen. Vous voulez rouler sans le moteur? Ou vous avez le moteur, mais vous n'avez pas d'essence? Il faut mettre l'essence. On peut dire, la joie, c'est l'essence qui va tourner le moteur. Amen. Alléluia. Philippiens 4, 4. Moi, je dis, c'est un des versets, je pense, le plus connu de toute la Bible. Mais le connaître ne suffit pas, les amis. Il faut le faire. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Marie, aimez vos femmes. Ce n'est pas bon de dire « je sais ». Faites-le. Et les choses vont aller mieux à la maison. Amen. Qu'est-ce qu'il dit, Philippiens 4, 4? Réjouissez-vous. Toujours? Vous êtes sûr que c'est marqué toujours? Moi, je vous dis, la plupart de vous, vous devez gommer ça de votre Bible. Parce que vous pensez que c'est « réjouissez-vous dimanche matin entre 10h et 10h30 ». Réjouissez-vous quand votre chèque de salaire arrive. Ouais. Réjouissez-vous quand on vous annonce que vous avez gagné quelque chose. Non, il dit, réjouissez-vous toujours. J'ai surtout besoin de la force quand ça ne va pas chez moi. Amen. Amen. Quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça va mal, il me faut la force pour surmonter, amen, pour persévérer, pour être patient, pour résister, pour gagner. Et vous avez besoin de la force. Amen. Au travail, à la maison, dans votre santé, dans vos finances, dans vos relations, il vous faut la force. Exact. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Amen. Il vous faut bien de décrire ça ou d'imprimer ça de votre ordinateur et coller ça quelque part et dire, voilà, oui, le mandat de Dieu pour ma vie de chaque jour. Réjouissez-vous. Je peux vous raconter un petit peu l'histoire. Donc, des Philippiens, vous connaissez cette histoire? Vous savez d'où est venue cette église? Vous savez comment c'est commencé? Non? Vous voulez savoir? Actes chapitre 16, on va le lire. Cette église était le résultat d'une révélation, de l'obéissance, de la persécution, ouais, de la louange, ouais, et de miracles absolument étonnants. Et c'est l'église de la joie. C'est pourquoi c'est l'épître de la joie. On commence au verset 6. Ça va si on lit un peu la Bible? Amen, ça va nous faire du bien. Il dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit, vous vous rappelez qu'on a imposé les mains sur Paul et Barnabas? Pour qu'ils soient missionnaires, qu'ils soient envoyés annoncer. Et ils ne sont jamais partis seuls, ils avaient toujours une équipe. C'est très intéressant. Nous partons faire trop de choses seuls. Moi j'ai appris ceci, ne faites jamais quelque chose seul. Pourquoi? Parce que vous allez vous fatiguer. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas apprendre à quelqu'un d'autre quelque chose s'il n'y a personne avec vous. Amen. C'est très facile dans le Seigneur de faire les choses que je fais et quelques-uns disent, je fais mieux tout seul. Oui, mais personne n'apprend de vous. Allô? C'est ce que nous essayons de mettre en place dans toute l'Église, que nous ne travaillons pas seuls. Amen. Paul n'a jamais travaillé seul. Jésus n'a jamais travaillé seul. Il est monté sur la montagne, il a passé du temps avec le Père seul, mais sinon il y avait au moins 3 de ses disciples, apôtres avec lui, et souvent 12, et souvent toute une foule. Amen. Et ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu dans l'Asie. Ça, c'est intéressant. Le Saint-Esprit les a empêchés d'annoncer la parole. Ils traversaient la Phrygie et le pays de la Galatie. Après arriver près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit ne leur permit pas. Vous imaginez, ils vont annoncer Jésus et l'Esprit, non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Ils franchirent alors la Mysie et descendaient à Troas. Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Ça veut dire qu'il a eu une vision, il a partagé ça avec les autres. S'il vous plaît, si vous croyez que vous avez eu une vision, si vous ne pouvez pas partager ça avec des hommes et des femmes spirituelles, oui, ça ne vient pas de Dieu. Oh, mais ils ne vont pas comprendre. Moi, je dois le faire toute seule, oui. Vous allez courir droit dans le mur, comme cela. Si vous croyez que c'est Dieu, Dieu va parler aux autres pour confirmer ça ou peut-être vous aider à ratifier ça pour que vous le faites bien.
Amen.
Amen. Nous ne devons pas vivre notre vie chrétienne seule. Personne n'est appelé à vivre sur une île désert. Oui, mais si vous êtes sur une île désert, vous prendrez quel livre avec vous? Mais si vous êtes sur... On n'est pas sur une île désert. On est appelé à vivre en communion avec beaucoup de gens. Amen. Hallelujah. Ça, c'était pour quelqu'un. Après cette vision de Paul, verset 10, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine. Concluons que le Seigneur nous appelait à énoncer la bonne nouvelle. Verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers Samothrace et le lendemain, nous débarquons à Néapolis. Oui, de là, nous allons à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Première fois que l'Évangile arrive en Europe. Très intéressant, n'est-ce pas? Verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où l'on accoutumait de faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes. Oui, moi je parlais avec second quand j'arrive au ciel, d'accord? Parce que le français n'est pas facile, oui. Pour un britannique, oui. Aux femmes qui étaient réunies, l'une d'elles, nommée Lyde, marchand de poupre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et l'écoutait. Le Seigneur lui ouvrait le cœur. Est-ce que le Seigneur vous a ouvert le cœur? Oh, hallelujah! Pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par les instances. Verset 16. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Vous imaginez? Vous allez au travail demain? Il y a une jeune femme qui vous suit. Elle commence à dire, « C'est un chrétien! Il va... » qui aimerait vivre cela? Ça vous dirait? Non, ouais. Elle faisait ça pendant plusieurs jours. Verset 18, il faut lire la parole de Dieu. Et imaginez un petit peu. Il dit, « Fatigué, hein, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à lui-même. Tout le monde dit, « Alléluia! » Elle était possédée par cet esprit. Oui, oui, ça gagnait de l'argent pour ses maîtres, mais elle était une esclave. Elle ne vivait pas sa vie. Donc, évidemment, il y a réveil. Toute la ville était sauvée, n'est-ce pas? Pourquoi vous me regardez comme ça? Oh, il faut lire la Bible, n'est-ce pas? Parce que les chrétiens pensent comme ça, tu vois. Un miracle, et toute Nice sera sauvée. Jésus a fait plusieurs miracles, oui, et ils l'ont crucifié. Oui, on a cette idée, tu vois. Oui, les gens, ça ne marche pas comme ça, les amis. Moi, j'ai vu des chrétiens dire, « Ah, il y a un malade, on va prier pour cette malade. Et si le Seigneur guérit cette malade, après tout, ma famille va être sauvée. » Vous êtes en train de dicter à Dieu comment sauver votre famille, vous savez. Et le diable, il entend ça, il dit, « Je sais comment. Hein, résister au salut de la famille, j'assure que lui, il ne va jamais être guéri. » Arrêtons de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Prêchons l'Évangile. Amen.
Amen. Amen.
Mais la ville ne s'est pas convertie. Regarde ce qui se passe. Verset 19. « Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et le traînèrent sur la place publique devant les magistrats. » Elle était voyante. Elle était astrologue et gagnait beaucoup d'argent. Oui. Et ses maîtres ne sont pas contents. Il les présentait aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. » Ce n'est pas vrai, ils n'ont troublé personne. Oui. C'est elle qui est en train de crier, pas Paul. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. Verset 22. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements. Vous savez quand ça ne va pas très bien pour vous, lisez la Bible. Oui. La dernière fois, on vous a arraché les vêtements parce que vous avez prié pour quelqu'un. C'était quand? Ça ne s'arrête pas là. Qu'on les bâtit de verges, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Donc vous comprenez, ce n'était pas oui, un prison 4 étoiles avec Canal+. Il n'y avait pas l'électricité. Oui. Le géant ayant reçu cet ordre, les jeta dans le prison intérieur et mit leur cèpe aux pieds. Vous pensez que votre vie est difficile? Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils sont en train d'annoncer Jésus. Et ils ont délivré une fille qui était possédée. Moi, je trouve c'est gentil quand même. Quelle sera leur réaction? Quelle est votre réaction quand les choses vont de mal en pire? Quand vous n'avez pas le résultat que vous avez espéré ou que vous avez cherché, que vous avez cru? Vous pensez qu'ils attendaient cela? Non, je ne crois pas du tout. Verset 25, voilà votre réaction quand les choses vont mal. Vers le milieu de la nuit, il faut le plus noir, le milieu de la nuit, n'est-ce pas? Vous voyez, comprends, ils sont en prison, ils sont dans la prison intérieure, il n'y a pas de lumière, voyez, il n'y a pas de lumière électrique, il y a pas de, ils ne voient pas des étoiles, ils sont noirs et leurs pieds sont au cèpe et leurs dos sont en train de saigner. Il faut utiliser votre imagination si vous voulez comprendre la Bible, voyez, et le voir. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chanter, parce que nous avons beaucoup de chrétiens qui prient et pleurent. Et ils ne comprennent pas pourquoi Dieu ne bouge pas. Mais moi, je n'ai jamais vu dans la Bible où il dit pleurer et Dieu va agir. La Bible dit se repentir, oui. Et quelquefois, il y a des larmes de la repentance. Mais ici, ils ont prié et chanté des louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Donc, ils n'ont pas chanté doucement. Verset 26. Vous voulez des miracles? La joie du Seigneur est votre force. Oui, on peut tous se plaindre. On peut tous penser que c'est plus facile pour les autres. Oui. Il y a tellement de gens qui croient que c'est plus facile. Oui. Quelqu'un dit que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté du champ. Quelqu'un dit, arrosez votre herbe. Pas mal, n'est-ce pas? Tout à coup, verset 26, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers Ce n'était pas seulement Paul et Silas qui étaient libérés. Toutes les prisonniers étaient libérés par la louange. Décidez. Décidez de louer le Seigneur dans la situation que vous êtes actuellement. Amen. Vous savez comment nous avons eu notre appartement? Nous avons pu acheter notre appartement. On a un magnifique appartement. Nous étions dans un petit appartement et l'église était presque dans notre appartement. On avait des livres partout. On avait des réunions dans notre appartement parce qu'on faisait comme fait l'église donc, en Hollande. On était une église sans domicile fixe. Ouais. On allait de hôtel en hôtel, on portait toutes les choses, mais toutes les restes des choses étaient chez nous. Et un jour, c'était notre jour de repos, on était dans notre chambre, en train de pleurer sur notre sort, on ne peut plus. Et le Seigneur dit, et si tu restes ici pour le reste de ta vie? On dit, d'accord. On a réalisé que Dieu voulait travailler notre attitude. Ouais. Et ce jour-là, on a pris une décision, on dit, peu importe, si on reste ici, ouais, confiné à ces petits murs, pour le reste de notre vie, on va louer le Seigneur, on va annoncer Jésus, rien ne va nous empêcher de faire ce que Dieu nous a appelé. Et le Seigneur a dit, je te donnerai un appartement. Et aujourd'hui, nous sommes propriétaires de magnifiques appartements. Amen. Parce que nous avons changé notre attitude et on a commencé de louer le Seigneur, pas pour ce qu'on n'avait pas, mais pour ce qu'on avait. Paul et Silas étaient dans une situation bien pire. Mais ils ont loué le Seigneur. Ils n'ont pas pleuré. Moi, j'ai appris cela. Ouais. Dieu m'a dit d'arrêter de fréquenter une jeune femme. Je suis allé au lit et j'ai pleuré une semaine. Vous savez ce que ça fait? Je vous dis ce que ça fait. Heureusement, ma mère est venue me sortir de ce lit. Je suis très honnête avec vous aujourd'hui, d'accord? Elle est venue, vous avez terminé maintenant. La seule chose que ça m'a fait, ça m'a donné un mot de tête qu'on ne pouvait pas imaginer, sauf si vous l'avez fait aussi. Amen. Mais pleurer, ça ne résout pas les problèmes. Louer vous donne la force du Seigneur. Amen. Se réjouir va vous donner la force pour trouver la solution et pour remonter. Amen. Tout d'un coup, il fit un tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison, verset 25, furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes ici !» Pourquoi le geôlier allait se tuer? Parce que s'il ne se tuait pas, les Romains allaient faire quelque chose de gentil quand ils faisaient à l'époque, comme le crucifier, ouais, ou le couper en quatre, tu vois, toujours vivant. Ouais. Donc il dit, « C'est mieux que je me tue moi-même. » Mais Paul dit, il aurait pu dire, vas-y. Mais c'est lui qui l'a jeté en prison, qui a mis les pieds au cep. Il n'a pas été gentil avec eux, mais Paul dit, ne vous faites pas de moi. Verset 29, alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il fit sortir et dire, Seigneur, je suis sûr qu'il ne les a pas appelés Seigneur jusque-là. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonça la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Verset 33, parce qu'il ne faut pas arrêter l'histoire trop tôt. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Ils lavèrent leurs pieds, leurs plaies, parce que ça saigne encore. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez pourquoi l'épître des Philippiens, c'est l'épître de joie? Ça a commencé avec Paul et Silas dans une des pires des situations. Battus pour avoir fait du bien. Oui? Oui? Leur dos en sang. Attaché. Moi, je sais qu'on avait un ami et plombier ici. Il avait embauché quelqu'un. Il ne savait pas, ou peut-être il savait. La personne n'avait pas le papier. Quelqu'un a dénoncé. Les policiers sont venus. Il dit, on m'a attaché. Il dit, je suis français. On m'a attaché à un radiateur dans le commissariat pendant 13 heures. Il dit, c'est la pire chose qui lui est jamais arrivée. Oui. Paul et Silas avaient les pieds au cep. Leur dos en sang. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur réaction, c'était quoi? Alléluia! Nous avons le Dieu de la délivrance. Si on meurt ici, ce n'est pas grave, parce que nous avons l'éternité avec Dieu. Amen? Ils avaient peur de rien. Moi, je trouve que les chrétiens ont peur de tout. Oui. Imaginons le pire. Le pire, mes amis, c'est que nous mourons et nous partons pour être avec le Seigneur. Ce n'est pas si mauvais que ça. Amen? Mais Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu veut ta délivrance plus que vous voulez votre délivrance, parce qu'il veut que vous vivez et que vous annoncez la bonté de Dieu. Quelqu'un dit alléluia. Amen. Amen. Servir le Seigneur avec joie. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Faut que nous comprenions que être heureux ou le bonheur est le résultat de nos circonstances. Nous avons vu ça il y a 2 semaines, ouais, que si nous voulons être heureux, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Je ne veux pas parler plus que ça maintenant. Vous pouvez écouter le message. C'est tous les podcasts sont en ligne maintenant. Ouais. Mais être heureux n'est pas votre force. Écoutez-moi bien. Être heureux dans les circonstances actuelles n'est pas votre force. Nous sommes dans une société qui cherche heureux. Nous sommes la génération happy. Et on aime tous ce chant happy. On aime ça, n'est-ce pas? Mais être happy n'est pas votre force et ça ne va pas vous en sortir. Parce que happy, être heureux, oui, est le résultat que tout va bien et la plupart du temps, tout ne va pas bien. Amen? C'est la joie du Seigneur qui est votre force. Mais la joie vient d'où? La joie vient de Dieu. Amen. Et Dieu dit en Malachie 3:6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. N'est-ce pas merveilleux que les choses que vous entendez dimanche matin soient aussi vraies lundi matin? Amen. Oui, vous pouvez être joyeux quand vous vous levez lundi matin et qu'il faut partir au travail. Amen. Et vendredi après-midi, pour ceux qui terminent le vendredi, oui, vous pouvez être aussi joyeux. Parce que Dieu ne change pas et ses promesses sont oui et amen. Hallelujah. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 dit, soyez, toujours joyeux. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard. Moi, je trouve beaucoup de recherches. Je veux connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Ce n'est pas un endroit. Ce n'est pas un pays. Ce n'est pas des études. Ce n'est pas une personne. La volonté de Dieu, c'est soyez toujours joyeux.
Amen.
Amen. Priez sans cesse, être en contact avec Dieu. Rendez grâce en toutes choses. Amen. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Vous êtes prêts pour la prochaine épreuve? Parce que je vous promets, ça va venir. Comment est-ce que vous allez surmonter? Comment est-ce que vous allez déplacer? Comment est-ce que vous allez contourner? Amen. Oui, dans la joie. Mais il faut décider. Amen. Quelle est ma réaction quand je vois un obstacle vient entre ma route qui m'empêche d'avoir ce que Dieu m'a promis? Je me réjouis dans le Seigneur. Et je deviens de plus en plus fort. Amen. La joie est déterminée par la vérité éternelle. Luc chapitre 10, verset 20. Le disciple revient après avoir chassé les démons et guéri les malades. Et il se réjouit et Jésus dit, j'ai voyé Satan tomber du ciel. Mais il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Avez-vous raison de se réjouir?
Amen.
Vous êtes un peu silencieux. Avez-vous raison de se réjouir?
Amen.
Si vous pouvez comprendre, je sais, on est tellement terre à terre, tellement concerné. Est-ce que je vais arriver au magasin pour acheter ça en solde? Est-ce que j'aurai ceci? Et si j'ai le plus récent téléphone, je serai heureux. Et si j'ai ceci, et si je... Ouais, ça ne vous rend pas... Ouais, ça fait pas la vie. Il faut que nous comprenions que la vie doit être établie en Dieu. Et Dieu ne change pas. Amen? Dis avec moi la joie du Seigneur. Et ma force. Oh, hallelujah, tellement à dire. Mais tournez avec moi en Hébreux 12. Les choses visibles sont passagères. Les invisibles sont éternelles. Je me répète, les choses visibles sont passagères. Les invisibles sont éternelles. Maintenant, vous pensez que je suis très, très profond, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est 2 Corinthiens 4, 16, 18. Amen. Paul l'a dit. Oui. Les choses visibles sont passagères. Vous avez un obstacle? Vous avez un problème? Vous êtes dans une situation actuelle? Dites, c'est passagère! Je ne meurs pas ici! Je ne m'arrête pas ici parce que le diable, il vient sur notre épaule et dit, tu es cuit, c'est fini. Tu n'avanceras plus. Tu pensais que non, c'est passager parce que je le vois. Mais les choses invisibles sont éternelles. Vous ne pouvez plus vous décourager. Moi, j'ai appris ceci. J'aurai 56 ans cette année. J'ai vécu un petit peu. J'ai appris certaines choses. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. N'arrêtez jamais d'apprendre, d'accord? Mais j'ai appris ceci. Quand vous fixez vos yeux sur les circonstances, vous allez vous décourager. Est-ce que d'autres ont vécu assez longtemps pour savoir cela? On fixe les choses et on se décourage. Ouais, mais vous fixez Jésus. Ouais, pour beaucoup de gens, c'est flou, fixer Jésus. Mais il est où? Viens, Seigneur. Il est là. Il est là. La parole s'est faite chair et c'est la parole écrite, n'est-ce pas? Nous avons Jésus dans ces pages. Il se manifeste. Il se dévoile dans ces pages. Ses promesses sont là pour nous. Et écoutez, Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Écoutez bien, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, difficile ce mot ce matin, l'ignominie, c'est ça? C'est ce que j'ai dit. Et s'est assis à la droite de Dieu. Ha! Jésus a fait ce que nous devons faire. Il a regardé l'autre côté. Tu imagines la croix? Est-ce qu'on peut imaginer l'horreur de la croix? Physiquement, il n'y avait pas une punition, un mort plus douloureux. Les Romains avaient tout essayé jusque-là. Là, ils ont trouvé le plus pénible. Ouais. Mais pas seulement ça, il était rejeté. Rejeté par les gens qui ont dû l'accepter. Amen. Ouais, il avait un rejet émotionnel, il avait un poids physique insupportable. Mais vous savez, Jésus n'a pas regardé la croix. Il a regardé quelque chose de l'autre côté de la croix qui lui a donné la joie. Vous savez ce qu'il a regardé? Est-ce que vous savez ce qu'il a regardé? Qu'est-ce qui lui a donné la joie? Vous. Il a regardé le résultat de la croix. Parce qu'il savait, il a dit, Seigneur, si tu peux éloigner ces coupes de moi, mais non pas ma volonté. Il ne voulait pas aller à la croix. Mais il savait que c'était le seul moyen par lequel vous pouvez être sauvés, que je puisse être sauvé. Quelqu'un dit hallelujah. Merci Seigneur pour la croix. Nous devons nous réjouir tous les jours pour la croix parce que Jésus est allé à la croix pour moi, pour vous. Et il a pu supporter la croix parce qu'il ne regardait pas la croix. Il ne regardait pas la souffrance. Il nous regardait l'autre côté. Il dit, il y a une multitude d'hommes et de femmes qui vont pouvoir être sauvés grâce à la croix. Amen. Et nous devons faire pareil, parce que le diable, il met des circonstances et les barrières, les obstacles devant nous, mais nous devons dire, oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il essaie là? Il essaie de m'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens que vous allez voir sauver. Il y a les gens que vous allez voir guérir. Il y a votre famille que vous voulez voir au ciel, n'est-ce pas?
Amen.
Et le diable veut qu'on s'arrête, qu'on recule. Oui, je prends un temps de recul. Non, vous éloignez la bénédiction. Non, on va regarder avec joie qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Et passons à l'autre. Mais nous devons fixer les yeux sur Jésus. Fixer les yeux sur ses promesses. Fixer les yeux sur la parole. Et dire, cette parole va devenir réalité dans ma vie. Dieu l'a dit. Dieu se tient derrière sa parole. Amen. Jésus a dit, Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Il y a les tribulations. C'est normal. Quelquefois, on entend les chrétiens, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Ah, ça a dû être mon passé. Oui, j'ai dû tellement pécher dans le passé que tout ça. Oui, ça, c'est le diable. Je suis désolé, votre passé est lavé, nettoyé, fini. Il faut que vous en finissiez avec votre passé. Parce que Dieu ne pense plus. Il n'y a que le diable qui veut jouer là. Oui, dans la boue. Mais nous ne jouons plus dans le boue. Le sang de Jésus a lavé notre passé. Nous avons seulement un avenir et de l'espérance.
Amen.
Oh, hallelujah. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Mes amis, c'est l'heure de décider que vous allez donner place à la joie. Parce que c'est la joie du Seigneur qui est votre force. Je vous donnais encore 2 versets. Je pouvais vous donner 12, 13, 18, 20. Faites une recherche dans votre Bible online, dans votre tablette, ouais. Vous allez voir des versets, les versets qui ont déroulé l'euro. Se réjouir, joie, être joyeux, c'est extraordinaire. Mais Proverbe 17, 22 dit, et nous avons toujours tous besoin de faire face à notre corps, parce que nous vivons, Dieu a décidé qu'on va vivre sur terre dans un corps. Amen. Et notre corps est attaqué. Donc, comment est-ce qu'on va vivre fort dans notre corps? Il dit, un cœur joyeux est un bon remède.
Amen.
Mes amis, si vous avez besoin de prendre des médicaments parce que les médecins les ont prescrits, prenez-les avec joie.
Amen.
Non, parce qu'il dit, mais l'esprit abattu dessèche les os. Les docteurs ont dit que vous allez mourir. Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Réjouissez-vous dans les promesses de Dieu. Oui, mais prends votre médicament jusqu'à le médecin dire vous n'avez plus besoin. Parce qu'il va le dire. Si vous vous mettez à prendre un médicament au moins 3 fois par jour, oui, avec chaque repas, avant le repas, pendant le repas, après le repas, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et vous allez devenir fort. Hallelujah. Est-ce qu'on peut vivre sans médicaments? Bien sûr, on peut vivre sans médicaments. Mais si pour l'instant vous avez besoin de prendre les médicaments, oui, ne les prenez pas tristement. Prenez-les avec joie. Hallelujah. Ésaïe 61:7. Ah, je ne sais pas si vous avez des versets que vous aimez, mais ce verset, ma femme lit presque tous les jours depuis des années maintenant, Ésaïe 61. Si vous lui demandez, qu'est-ce que vous avez lu aujourd'hui, elle va toujours dire, Ésaïe 60, Ésaïe 61. Mais ce verset a changé notre vie, a changé notre existence. Ésaïe 61, verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Vous aimez le gâteau au chocolat? Vous aimerez une portion double? Au lieu de l'ignominie, ils seront quoi?
Joyeux.
Ça, c'était la révélation que Laure et moi, nous avons eue il y a 34 ans passés. Oui. Joyeux de leur part. C'est ma décision. Et si vous ne prenez pas cette décision, je ne peux pas le prendre pour vous et Dieu ne prendra pas. Mais vous décidez. Je vais me réjouir dans le Seigneur.
Amen.
Ils seront joyeux de leur part et ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Écoutez bien, ça ne s'arrête pas là. Parce que beaucoup de gens pensent que la vie s'arrête là et qu'ils disent, et leur joie, quoi, sera éternelle. Oh, merci Seigneur. Comprends ceci. Ce que je suis en train de vous enseigner n'est pas seulement pour cette vie. C'est pour l'éternité. On va se réjouir. Regardez dans l'Apocalypse. Regarde ce qui se passe au ciel. Il y a des gens en train de louer et célébrer Dieu de toute langue, de toute nation, de toute couleur, de toute famille. Ils célèbrent Dieu. Nous allons célébrer Dieu. Nous allons nous réjouir dans le Seigneur pour toute l'éternité. Donc, répétons un petit peu ici-bas. Je vous invite à vous lever. Dis ceci avec moi. Je sers le Seigneur avec joie. Et je grandis en Dieu. Allez, votre décision, les amis. Votre décision, ne le remettez pas l'année prochaine. Non, j'attendrai le 31 décembre et je prends un nouveau bonne résolution pour me réjouir en 2016. Pardon, vous allez perdre 9 mois et demi, oui, de 2015. Prends la décision maintenant. Si vous ne l'avez jamais, oui, pense à le faire. Dis, je vais me réjouir dans le Seigneur. J'ai besoin de force. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas besoin de force? On a tous besoin de force. Amen. Oh, hallelujah. Prie ceci avec moi. Merci, Seigneur.
Merci, Seigneur.
Merci pour une révélation.
Merci pour une révélation.
De ta parole.
De ta parole.
De l'importance.
De l'importance.
Que c'est ma décision.
Que, ma décision.
Que je peux me réjouir.
Que je peux me réjouir.
En toi.
En toi.
Peu importe les circonstances.
Peu importe, les circonstances.
Peu importe ma situation.
Peu importe
mon compte en banque.
Peu importe mon compte.
Ou mon état de santé.
De
je décide de me réjouir dans le Seigneur. Je donne place à la force de la joie. La joie du Seigneur est ma force. Hallelujah. 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 Moi, j'aime toujours donner l'occasion à chacun ici de faire de Jésus le Seigneur de leur vie. Si vous l'avez déjà fait, ne permettez personne à vous dire le contraire. Est-ce que Jésus est le Seigneur de votre vie? Est-ce qu'il est mort à la croix pour vos péchés? Est-ce qu'il est ressuscité pour votre justice? Donc, c'est décidé, n'est-ce pas? Ne mettez jamais ça en question. Mais si vous n'avez pas encore fait cela, ce matin, vous pouvez inviter Jésus d'entrer dans votre vie. On va afficher un prix, on va prier cette prière tous ensemble. Et si vous voulez inviter Jésus d'entrer dans votre vie, priez cela. Si vous vous êtes éloigné de Dieu, priez cela et dire « Je reviens au Seigneur aujourd'hui ». On est prêt? Dis ceci avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à ma place. Je crois que tu as payé pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité le troisième jour. Je me repens de mes péchés, car tu es fidèle et juste pour me pardonner. Jésus, viens régner dans mon cœur. Tu es mon Seigneur et Sauveur personnel. Je suis enfant de Dieu et j'ai la vie éternelle. Je le crois et je suis sauvé. Oh, hallelujah.